place publique.
Et si, pour limiter les hausses des coûts de la santé, nos franchises de primes maladie s'élevaient à 5 000, voire même à 10 000 francs? En lançant cette idée, la patronne de l'assurance CSS a déclenché une avalanche de réactions hostiles ces derniers jours. On vous propose dans un instant de décrypter cette proposition pour le moins provocatrice avec un expert. Quel est le futur de notre industrie à l'ère de la digitalisation? Pour le savoir, rendez-vous bien sûr au Salon des moyens de production microtechnique, le SIAMS, qui se tient jusqu'à vendredi à Moutier. En marge de ce rendez-vous incontournable pour les PME de la région, on vous propose tout à l'heure une demi-heure spéciale consacrée au virage 4.0.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devecq.
Bonsoir à tous. Et si on augmentait la franchise d'assurance maladie à 5 000, voire 10 000 francs? L'idée de la patronne de la caisse maladie CSS, Philomena Colatrella, dans la presse dominicale, a fait l'effet d'une bombe. Une franchise aussi élevée pourrait, selon son auteur, permettre de limiter la hausse continue des primes maladie en responsabilisant les patients qui verraient ainsi leurs primes mensuelles diminuer, mais devraient en échange assumer une écrasante partie de leur traitement. Proposition irréaliste, mort de l'assurance maladie, la réplique ne s'est pas fait attendre. Ce pavé dans la mare a déclenché un flot de réactions hostiles, à gauche comme à droite. L'idée d'une franchise élevée a en tout cas relancé le traditionnel débat sur les coûts de la santé, généralement activé aux portes de l'automne, lorsqu'est publiée la hausse des primes maladie. Alors, les franchises élevées, une piste sérieuse ou une simple provocation? On en parle avec vous, Dominique Sprumont. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes un expert dans le domaine, directeur adjoint de l'Institut de droit de la santé à l'Université de Neuchâtel. Alors cette franchise à 5 000 ou 10 000 francs, derrière ce qui est perçu comme une véritable provocation, est-ce qu'il y a malgré tout matière à réflexion selon vous?
Alors je pense qu'il faut être très attentif aussi bien sur le fond que sur la forme de cette proposition. Vous avez très bien résumé la situation. Il y a un brassage médiatique autour de cette proposition et je pense que c'est le but principal recherché par son auteur. Hein, et je pense qu'on pourra peut-être en parler plus tard. Mais en ce qui concerne le fond, hein, cette idée que si on augmente la franchise à 5 voire 10 000 francs, on va faire baisser les coûts des primes maladie, et respectivement le coût des soins, en plus ce serait le but ultime.
À hauteur de 1 milliard de francs, hein, c'est le chiffre qui est articulé.
Alors c'est intéressant parce que c'est étayé par aucune étude scientifique, par aucune démonstration, par aucune preuve, et je pense que ça c'est plutôt inquiétant. Si vous regardez la situation actuelle, mettons que vous avez pas de chance, vous êtes dans un canton où les primes sont particulièrement élevées, de l'ordre de 400 francs par personne, si vous avez la franchise la plus basse à 300 francs. Donc vous payez déjà à peu près 5 000 francs par année de primes d'assurance, et si vous tombez malade, vous avez au minimum 1000 francs à débourser de votre poche, puisque vous avez les 300 francs de la franchise, plus les 10% de la quote-part jusqu'à concurrence de 700 francs. Donc 5000 plus 1000 francs, 6000 francs. Beaucoup de gens ont de la peine à payer cette somme actuellement. Alors je comprends mal comment aujourd'hui on prétend qu'on va faire des économies si on demande à ces mêmes personnes de payer 10 000 francs. Sachant que la majorité des gens, pourquoi on paye 400 francs de prime, c'est pour couvrir la totalité des frais dans le domaine de l'assurance maladie. Ce qui veut dire qu'en payant les 5 000 francs par année, on couvre déjà les frais de ceux qui sont malades et qui ont besoin de soins. Là, dépenser 10 000 francs, c'est dépenser le double du montant actuel qui est demandé dans le cadre des primes d'assurance maladie. Je ne vois pas la logique qui voudrait que, aujourd'hui, alors que les gens ont de la peine à payer déjà leurs primes, ils vont être moins consommateurs de soins et qui vont coûter moins cher en devant dépenser le double.
C'est ça, c'est les revenus modestes en fait qui seraient tentés d'économiser de l'argent aux dépens de leur santé, hein, parce que qui dit franchise élevée dit prime plus basse.
Attention, c'est pas que les revenus modestes, on parle de 10 000 francs, ça touche la classe moyenne et la classe moyenne supérieure. Qui a 10 000 francs qui peut débourser? On pense aux familles où il y a 4, 5 personnes, 50 000 francs à débourser si ton monde tombe malade dans la famille. Oui. C'est des montants qui sont inaccessibles. Et je pense que là, c'est évidemment où cette directrice de la CSS souhaite nous amener, c'est nous familiariser au débat par rapport à une augmentation des franchises. faire parler les bien-pensants qui vont lui répondre que c'est une aberration, ce que j'essaie de faire maintenant, pour pouvoir préparer le terrain en disant « Ah ben non, c'est pas 1000 francs d'augmentation, mais on va faire la franchise à 5000 francs, on va la faire à 3000 ». Elle est déjà à 2500 francs, la franchise maximale, qui est un choix, hein, c'est un choix. Les personnes qui choisissent de le faire dans sa proposition, ce serait quasiment une obligation. Je pense que c'est là où, sur la forme, on doit être attentif. On essaye de préparer le terrain pour faire un débat qui va à l'encontre du principe de solidarité, qui ne tient pas compte du fait que de repousser les soins peut en fait coûter très cher, puisque en retardant la prise en charge thérapeutique pour certaines pathologies, on augmente la complexité de cette pathologie et donc les coûts qui sont liés à sa thérapie. Donc c'est un mauvais calcul.
Alors on a pu entendre plusieurs acteurs du débat, hein, que nous, les assurés, on a notre responsabilité, hein, dans l'explosion des coûts de la santé. Pourquoi on ne pourrait pas laisser le choix à certains de contracter de telles franchises? Pourquoi c'est aussi impensable que ça? On pense notamment à cette catégorie de revenus élevés qui pourrait soulager la lamale du montant de leurs soins.
Parce que justement, le principe même de la lamale, qui repose aussi sur une idée de principe de solidarité inscrit dans notre Constitution, veut qu'il y ait une participation collective à l'effort et que les bien portants soutiennent ceux qui sont malades, que ceux qui sont les mieux armés financièrement, socialement, aident les plus démunis. Et cette solidarité, elle disparaîtrait si on faisait des assurances en option.
Ça n'aiderait pas le système, ça ne soulagerait pas le système de certains frais qu'assumeraient eux-mêmes ces assurés.
Mais là, je pense qu'on devrait discuter un peu sur cette question des coûts de la santé, de cette soi-disant explosion. Il y a une augmentation dans le système de soins. Ce sont les soins qui coûtent cher, mais comme beaucoup, je pense qu'on doit relativiser cette augmentation, qui est un signe d'une évolution de société. Nous sommes dans une société qui est très évoluée, qui a les moyens de financer ces soins, cette augmentation. Et la question, c'est de savoir qui c'est qui doit supporter cette augmentation. On constate que depuis les années 90, il y a un désengagement de l'État fédéral, un désengagement des cantons, et donc une augmentation de la part qui retombe sur le panier de la ménagère, sur les familles et sur la population. Et c'est là où la question doit se faire. Quelle part est supportable par rapport aux individus, par rapport au coût globaux des soins pour la société? Je pense qu'au niveau de la société, au niveau de la Suisse, on a la capacité de prendre en charge ces soins. C'est un choix, hein, comment on veut les répartir. Actuellement, malheureusement, on augmente toujours plus la charge du point de vue des assurés, patients, citoyens, mais il y a d'autres options possibles.
Donc c'est moins le problème des coûts de la santé que vous pointez du doigt que de la manière de le financer. Dernière question rapidement. Au-delà du montant de la franchise, il y a le comportement des assurés, il y a la politique des assureurs, il y a le prix des médicaments, mais aussi la question de l'offre hospitalière, on le sait bien dans la région, qui peut peser sur la hausse des coûts. Quel regard vous portez sur ce système de santé en Suisse? Alors, réponse brève à une question un peu difficile, mais est-ce que vous pensez qu'il est à terre, comme l'affirme ce matin dans le Blick l'économiste de la santé Heinz Löscher?
Alors, de nouveau, c'est le système de soins qui, actuellement, en Suisse, est effectivement confronté à des défis qui sont très importants. Il est faux de vouloir désigner l'un ou l'autre coupable. Le système en soi est très complexe et demande des réponses qui sont elles-mêmes différenciées en fonction des circonstances. Il y a un domaine dont on parle très peu, c'est la prévention, la promotion de la santé. Il y a notamment un projet de loi fédéral sur les produits du tabac qui a été mis en consultation récemment, qui pourrait être une manière assez intéressante de faire des économies. Le tabac nous coûte à la population suisse plus de 6 milliards de francs par année, et on a un Parlement fédéral qui, contre toute logique, propose de soutenir une loi qui est en faveur des cigarettiers.
Et on va reparler de cette loi, hein, qui a été mise en consultation. Vous avez été partie prenante de cette consultation, c'est-à-dire qu'on vous retrouvera, Dominique Sprumont, pour évoquer cette question. Pour l'heure, on vous remercie infiniment pour cet éclairage. Évidemment, on vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être venu dans Place Publique.
Bonne soirée à vous.
Place publique.
Et on est de retour dans Place publique. C'est l'une des plus importantes et passionnantes mutations du moment. L'industrie se met à l'heure du 4.0, une révolution marquée par l'avènement de machines connectées toujours plus autonomes, avec la promesse de pouvoir changer nos modes de production et de gestion. À la clé notamment, la réconciliation entre le travail à la chaîne et des produits fabriqués sur mesure. Et pour prendre justement la mesure de ces changements, c'est à Moutier qu'il faut être ces jours. La cité prévotoise est jusqu'à vendredi la capitale mondiale de la micro-précision. Le Forum de l'Arc à Moutier accueille la 16e édition du SIAMS, le salon des moyens de production microtechnique. Des milliers de personnes qui vont découvrir pendant 4 jours les stands de quelques 450 exposants de la région, de Suisse et de l'étranger. Un salon marqué aussi par des conférences, des tables rondes, notamment, vous le savez, sur nos radios, sur RJB et RFJ notamment. Et hier soir, 200 personnes ont pris part à une soirée dédiée aux PME du futur, une initiative de la Chambre d'économie publique du Jura bernois, la CEP, que vous dirigez. Patrick Linder, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, d'après ce qui a été dit hier soir, qu'est-ce qu'il faut avoir, selon vous, à l'esprit quand on parle des entreprises du futur ?
Je crois que le message capital, c'est que les nouveaux paliers de productivité qui sont visés par les entreprises sont à portée de main. Les PME de notre région ne sont pas les victimes d'une évolution de l'industrie mondiale, mais en sont des acteurs. Et on a eu l'occasion hier soir de voir que de nombreuses PME de la région avaient déjà incorporé le potentiel du digital et menaient déjà des actions. C'est extrêmement réjouissant, c'est un message très positif pour tous les autres.
Le SIAMS bat son plein, on l'a dit, l'occasion de croiser des patrons d'entreprises de la région, une vitrine hors du commun, vous l'avez dit, pour l'industrie et pour mieux en mesurer les mutations. Pour celles et ceux qui n'y auraient pas encore mis les pieds, qu'est-ce qui vous a marqué cette année ? Qu'est-ce qui traduit mieux cette mutation ?
On est absolument ravis de voir qu'il y a un moral nettement meilleur. La relance économique dont on a déjà pu décrypter les modalités, attestée par les sourires dans les travées du salon. Ce qui est très important pour les visiteurs, c'est de comprendre l'interdépendance du système de production de notre région en visitant un Paris Salon. On trouve des fabricants de machines-outils, on trouve des fabricants de périphériques, d'outillage, mais aussi des utilisateurs. C'est tout ce qui fait l'interdépendance de l'économie de l'arc jurassien.
Et pour ceux qui ne connaissent pas ce rendez-vous, il y en a un qui nous écoute, c'est quand même un rendez-vous mondialement apprécié, estimé.
Alors, il met en scène l'aspect compact et homogène du tissu industriel régional, qui est une force qui nous est enviée par une concurrence internationale qui est menaçante sous beaucoup d'aspects. Ils ont en tout cas pas la densité dont on peut se prévaloir. Moi, j'invite tous ceux qui sont curieux de cette industrie, même les non-professionnels, non-spécialistes, à franchir les portes du salon et aller à la découverte de ce monde passionnant.
Une innovation, je sais que c'est difficile, une machine, une parole, quelque chose qui vous a marqué.
Mais je crois qu'on assiste aujourd'hui surtout à l'imbrication des systèmes, à une interconnexion généralisée. Ça se fait tous azimuts, chacun avec sa solution. Il y a des choix technologiques qui sont en cours, mais on voit qu'il y a une intégration des systèmes, et ça, c'est vraiment un message extrêmement fort.
Au SIAMS, on y voit des machines robotisées dernier cri, des technologies qui ouvrent de nouveaux horizons et dictent de nouveaux modèles d'entreprise. À l'image de la Micro 5, née des recherches de la Haute École Arc à Saint-Imier, une Micro 5, c'est son nom, qui a fait beaucoup parler d'elle il y a 2 ans. Une machine-outil de poche qui ne cesse de livrer des enseignements, comme on a pu le lire chez nos confrères d'Arc Info lundi. Pour mieux tirer le portrait de l'entreprise du futur, attardons-nous donc sur cette machine avec son concepteur, Claude Genra. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous avez conçu ce projet, vous êtes professeur en conception des moyens de production à la HE Arc. Alors, pourquoi, dites-nous simplement, pourquoi cette machine incarne l'industrie du futur ?
Je dirais que, tout simplement, les défis de société ont changé. Aujourd'hui, les aspects énergétiques et environnementaux sont bien plus importants. On sait très bien ce qui nous attend. On sait aussi les nouvelles normes qui nous attendent au contour, aussi bien dans le domaine de la machine que dans le domaine privé. Et là, il s'agissait d'explorer en fait une nouvelle voie, de voir dans la notion de la microtechnique, est-ce qu'il y a vraiment l'obligation d'avoir une machine, on peut le dire, disproportionné par rapport à la pièce qu'est l'usine. Est-ce qu'il n'y a pas une autre voie ? Est-ce que finalement, une petite machine, entre guillemets, qui se tiendrait sur une table, n'est pas aussi capable d'usiner une pièce horlogère dans la même qualité et la même productivité ?
Alors c'est ça, hein, l'intelligence de cette machine, c'est qu'elle fait aussi bien, mais avec moins d'énergie, moins de volume.
C'est exactement ça. C'était un challenge lié à l'énergie. Mais au final, on s'est rendu compte qu'au niveau technologique, il y avait également énormément d'apports nouveaux. Et finalement, cette année, nous avons réussi à découvrir encore une nouveauté, encore un avantage de ces faibles masses en mouvement, qu'on l'enverra peut-être plus tard, mais dans un premier temps, ce que j'aimerais dire simplement, c'est qu'en fait, lorsque l'on déplace des faibles masses, lorsqu'on a une machine qui tient très peu de place, au final, on arrive à des avantages qui sont bien supérieurs à une machine très grande qui a toutes les difficultés à maintenir de la précision et surtout beaucoup d'énergie pour se stabiliser. Donc finalement, c'est vraiment simplement retour vers la sobriété industrielle, mais sans perte de qualité d'usage.
Alors voilà une nouveauté qui a l'air d'être magnifique sous tout rapport. Néanmoins, elle n'a pas forcément été accueillie avec des hurrahs et des bravos. Certains industriels vous ont vu avec beaucoup de méfiance.
Je dirais que ça a été, en 2016, pas le point noir, mais je dirais ce que je n'avais pas imaginé. L'idée, c'était de se dire, on explore une nouvelle voie, on regarde si cette nouvelle voie peut amener quelque chose. Et parfois, ça a été senti plutôt comme une espèce de concurrence à ce qui se faisait aujourd'hui, alors que ça n'avait que pour vocation d'explorer une nouvelle voie. Pour autant, aujourd'hui, je pense que les industriels voient l'avantage et ne le sentent plus forcément qu'une concurrence par rapport à ce qui se fait.
Les industriels, d'ailleurs, pour certains d'entre eux qui ont déjà acheté cette machine, commandé cette machine, qu'est-ce que ça va changer pour elles dans leur manière de produire, de concevoir leur activité ?
Alors c'est là qu'on peut venir sur la particularité que l'on présente cette année. En fait, aujourd'hui, lorsque vous avez une machine qui va enlever de la matière, le besoin d'énergie pour enlever cette matière est tellement infime par rapport à la puissance que la machine peut fournir. En fait, le procédé d'usinage n'est pas visible. Alors que sur une machine qui est adaptée à la taille du produit qu'elle va usiner, l'énergie devient significative, ce qui veut dire qu'en fait, la simple mesure de l'énergie permet de savoir si la pièce est de qualité, si l'outil est de qualité, et au final, si la pièce est bonne.
Et là, vous nous faites la démonstration en fait, que la machine calcule, livre des informations, elle est connectée, elle fait appel aussi à des compétences, peut-être pas nouvelles, mais des compétences quand même très pointues, elle change la manière d'interagir pour l'employé avec la machine.
C'est exactement ça. Aujourd'hui, un petit peu comme ça s'est passé dans le mode automobile où on a formé des mécatroniciens. En fait, ici, on se retrouve avec des problématiques mécaniques que l'on connaît, mais avec l'intelligence artificielle qui permet d'aller beaucoup plus loin puis d'être capable de comprendre ce qui se passe sur la machine, de comprendre ces phénomènes physiques, de les interpréter et au final de décider plus ou moins par elle-même les décisions à prendre pour avoir un usinage de qualité.
Alors pour les visiteurs qui viennent au SIAM, ceux qui viennent voir votre stand, on voit par exemple des relevés de courbes pour savoir si l'aiguille qui est en train de graver ou de sculpter la pièce est suffisamment en forme ou trop usée. Vous arrivez à tout mesurer au final.
C'est exactement ça. La faible énergie de la machine est parfaitement en adéquation avec le besoin de l'usinage. Ce qui veut dire que lorsque le courant va varier, on saura exactement si c'est un usinage de qualité ou alors si elle a rencontré un défaut quelconque, si une dent a cassé, etc. etc. À la fin, c'est une pièce bonne.
Claude Genra, quand même, cette innovation, elle pose la question du rôle de votre haute école, donc recherche fondamentale, on met au point des machines, vous déposez un brevet et vous ne créez pas de start-up. Vous ne faites pas comme, par exemple, on le voit souvent dans une haute école polytechnique fédérale, les PFL, vous n'envoyez pas vos étudiants dans le marché, vous gardez le brevet, vous vendez ces machines, ça veut dire quoi ? Votre haute école devient elle-même une entreprise ?
Alors, l'idée là derrière, le fait que l'on ait breveté en fait cette idée, c'est tout simplement de permettre en open source à n'importe quelle entreprise d'en acquérir les droits, d'aller dans leur propre vision développer cette nouveauté, et puis finalement de se dire que ces petites machines peuvent avoir un avenir dans la production. Donc quelque part, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec la notion des start-up ? C'est qu'aujourd'hui, toutes les compétences sont là dans les entreprises. Il n'y a absolument pas d'utilité de créer des start-up, simplement de transférer technologiquement ce savoir vers les entreprises existantes.
Merci beaucoup Claude Genra. On passe à une autre conséquence en fait de cette révolution technologique. Vous l'avez dit, ça fait appel à de nouvelles compétences, ces nouvelles machines. Les PME du futur, ce sont donc des nouveaux savoir-faire, c'est-à-dire que les écoles doivent anticiper les besoins de l'industrie pour former la relève. Et c'est ce que vous avez fait dans votre école, Cédric Bassin. Bonsoir. Vous dirigez les écoles du Locle et de Neuchâtel, dans le canton de Neuchâtel, et vous avez donc justement inauguré en septembre une usine intelligente miniature, une usine qui permet à vos élèves de se former aux nouveaux besoins de l'industrie. Et qu'est-ce que ce laboratoire exactement leur permet de faire, ainsi qu'à vos professeurs ?
Bonsoir. Effectivement, on assiste clairement à des innovations technologiques qui font que la chaîne de production a complètement évolué. On a formé dans le passé, en Suisse beaucoup par silos, c'est-à-dire on a formé des mécaniciens, des électroniciens, des informaticiens, et on se rend compte qu'avec ces nouveaux outils de production, finalement, on est en train de casser ces silos, et on est en train de demander aux jeunes d'acquérir des compétences qui sont dans différents domaines. Dans notre école, l'idée, c'était de pouvoir mettre nos élèves en face finalement d'un système technologique qui a différents niveaux, des niveaux qui font appel à des compétences en mécanique, mais d'autres niveaux qui font appel à des compétences en électronique, en informatique.
C'est impressionnant si on voit les images de ce laboratoire. On est venu tourner dans votre laboratoire au mois de septembre, ça se trouve sur nos sites internet rjbrtnrfj.ch. Ça représente quand même d'importants investissements d'arriver à équiper une salle complète comme une usine du futur. Comment vous y êtes pris? C'est une première en Suisse.
Alors, on a travaillé avec un partenaire. Je pense que là aussi, ça fait partie des changements dans lesquels nous sommes confrontés. C'est-à-dire que maintenant, on va travailler plutôt en réseau avec des partenaires. Donc, on n'a pas travaillé seul dans notre coin. Et on a eu la chance de pouvoir travailler avec un grand spécialiste mondial de l'automation, SMC pour ne pas le citer, avec lequel on a développé, donc on a co-développé cet outil didactique. Ça reste un outil didactique. Ce n'est pas une chaîne de production pour produire à haut débit, et on a co-développé ce produit didactique pour la formation.
Donc on le comprend bien, à des degrés divers, les écoles, que ce soit dans la recherche fondamentale ou dans une école technique comme la vôtre, se rapprochent vraiment, ont des liens intimes avec les entreprises, avec le tissu économique. Je vous posais la question de qu'est-ce que ça permet de faire avec les élèves, et aussi pour modifier, pour rénover l'enseignement.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la formation professionnelle, finalement, les compétences, elles sont définies par les organisations du monde du travail, donc par les professionnels qui sont au front. Mais c'est aussi, nous, notre mission dans les écoles professionnelles, de montrer aux élèves, finalement, cette technologie, de quoi elle est faite, et puis de les entraîner sur ces nouvelles technologies. Avec toujours, quand même, en tant qu'institut de formation, l'idée qu'il faut bien garder en tête que on peut bel et bien donner à nos élèves des compétences dans des technologies qui actuellement sont à la pointe, mais il ne faut pas se leurrer, dans 15 ans, dans 20 ans, ces technologies, elles seront obsolètes. Donc nous, on a aussi cette mission de fournir un enseignement de base et de donner ce que j'appelle une culture technique de base à nos élèves, au-delà de ces technologies hyper à la pointe.
Vous le dites, ça change très vite, ça se complexifie. Xavier Comtesse, hier d'Avenir Suisse, plus d'Avenir Suisse, Xavier Comtesse parlait hier de machine learning, ces machines suffisamment intelligentes pour se reprogrammer elles-mêmes. Autant dire que pour espérer trouver un emploi, il va falloir sérieusement se mettre aux algorithmes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un niveau d'exigence et de compétence qui s'élève de manière spectaculaire dans votre école?
Alors là, vous soulevez un problème qui est finalement la dichotomie entre la largeur des connaissances et la profondeur des connaissances. D'une certaine manière, on veut des gens très à la pointe qui puissent maîtriser toutes ces technologies. Et d'un autre côté, on veut quelque part des gens qui savent, qui ont des connaissances dans différents domaine. Je pense qu'au niveau de la formation professionnelle, on est plutôt dans la largeur des connaissances, c'est-à-dire que nos élèves, comme je vous le disais avant, on est en train de casser les silos, donc que nos élèves aient des compétences dans différents domaines, de la mécanique à l'informatique en passant par l'électronique. Et ça, pour la formation professionnelle, c'est quelque chose d'important. Et avec un outil comme ça, ça nous permet justement de casser les silos et de donner des compétences transversales à nos élèves.
Oui, mais ça risque aussi de mettre certains profils d'élèves au bord de la route. Est-ce que tout le monde, comme avant, pourra accéder à une formation professionnelle telle que vous l'offrez? Est-ce que ça ne requiert pas quand même au départ des compétences encore plus
alors,
relevées?
Alors, votre question, elle est plus... à mon avis, c'est une question sociétale. Effectivement, on doit se poser la question en tant que société, aussi en tant que pays. Et là, le pouvoir politique doit se poser cette question. Avec ces nouvelles technologies, avec cette révolution industrielle, il faut bien réfléchir qu'on ne veut pas laisser des gens sur le côté de la route. Il faut bien savoir qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre et donner une réponse à cette problématique du fait que ben voilà, on n'est pas tous égaux devant les capacités d'apprentissage.
Cédric Bassin, qu'est-ce que vous dites aux parents qui nous écoutent? Parce que c'est aussi à eux qu'on s'adresse, évidemment, en parlant de l'avenir des entreprises. Pour que leur enfant trouve un emploi, qu'est-ce qu'il doit faire cet enfant? Il doit se lancer en courant dans l'informatique, qu'est-ce qu'il fait?
Alors là, je vais vous répondre comme directeur d'école qui sont situés dans l'arc jurassien. Beaucoup de parents viennent me voir et disent: on entend parler numérisation, informatique partout. Mon fils, ma fille, j'aimerais qu'elle se lance dans l'informatique. Et moi, je dis attention, dans cette région, l'informatique, très bien, on a besoin d'informaticiens, mais tout le monde autour, globalement, autour du monde, peut avoir accès à ces technologies. Par contre, nous, ici, on sait usiner la matière. On sait ce que c'est la microtechnique, on sait ce que c'est la micromécanique. Et il ne faudrait surtout pas négliger ça. Et je pense que là, on a une carte à jouer. On peut tirer notre épingle du jeu dans des technologies liées à l'usinage, liées au façonnage de la matière.
Dernière question. On parle des enfants, des étudiants, des élèves, comme on les appelait. Peu importe. On parle aussi des adultes, des employés actuellement qui ont eu une formation, qui ont un savoir-faire et qui vont devoir aussi s'adapter à ces nouvelles machines. Les entreprises peuvent évidemment assurer une partie de la formation, mais on imagine que votre école ou une école comme la vôtre peut être mise à contribution.
Alors la réponse qu'on donne souvent, c'est évidemment la formation continue. On sait très bien que nos élèves seront appelés à continuer de se former. C'est un petit peu une réponse bateau quand même, parce qu'il faut bien, être clair. Personnellement, en tout cas, j'ai plus la même capacité d'apprentissage à 50 ans que ce que j'avais quand j'avais 20 ans. Donc il faut non plus pas simplement répondre, vous avez qu'à continuer de vous former et tout ira bien. Donc là aussi, de nouveau, question sociétale, comment on va y répondre, quel dispositif on va mettre en place. À mon avis, c'est sur plusieurs niveaux et la formation continue est une des réponses.
Merci beaucoup Cédric Bassin de nous avoir éclairé sur ces enjeux au niveau de la formation. Dernier invité à nous rejoindre, Cédric Racine, bonsoir. Vous dirigez l'entreprise Solvaxis, basée à Sonsbo. Alors on a parlé de ces nouvelles machines connectées et des implications qu'elles auront sur l'entreprise et la main-d'œuvre, avec un enjeu évidemment sur la formation. Avec vous, on va parler d'un autre aspect essentiel, à savoir les conséquences de ces innovations sur l'organisation même de la production et de la gestion de l'entreprise. C'est pas tout d'avoir les machines à la main d'œuvre, il faut encore les logiciels hein, pour en tirer profit.
Effectivement, vous parliez tout à l'heure de machine learning. Je pense que avant, dans la première démarche de parler de machine learning, parlons d'entreprise learning. Je crois qu'il faut qu'on redescende dans les ateliers, qu'on réapprenne à écouter les employés, les acteurs du terrain, à étudier à quelque part les processus ou l'environnement dans lequel ils travaillent, et puis ce qui va permettre à quelque part de donner de la motivation et de donner à quelque part l'envie de travailler pour ces employés-là.
Alors avant de dire exactement ce que vous offrez aux entreprises, quel est votre rôle et puis par quel cap les entreprises doivent passer pour accomplir cette transition, qu'est-ce qu'elles vous disent ces entreprises, qu'est-ce qu'ils vous disent ces employés, qu'est-ce que vous observez? Est-ce qu'on est encore loin de cette révolution 4.0? Comme le dit Patrick Linder, il y en a déjà pas mal quand même de PME par ici qui ont compris le message.
Effectivement, je crois que ces études ou cette idée qui germait dans les têtes des cerveaux des entreprises ont démarré dans les années 2010 et actuellement nous voyons que depuis les années 2014, des entreprises très présentes dans le bassin jura-bernois et autres dans le tissu économique ont démarré, eux, des projets à quelque part vers l'entreprise du futur ou vers la smart factory, comme on dit aujourd'hui.
Ah, une entreprise qui a soufflé plusieurs fois 10 bougies et qui se dit, bah, tiens, on va passer dans le 4.0 parce que c'est quand même intéressant. Qu'est-ce que vous leur dites, à part que ça risque de prendre du temps et que ça risque de coûter cher, est-ce que vous leur dites quels sont les potentiels que ça peut leur amener? Par exemple, quel type de changement on peut apporter à une entreprise traditionnelle, entre guillemets?
Mais je crois que, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier grand changement, c'est d'enfin de rediscuter ensemble avec les acteurs de la production, donc ça va apporter à quelque part une motivation nécessaire et ça va permettre à garder les entreprises dans la société. Et nous, en tant que logiciel ou intégrateur de solutions de gestion d'entreprise, on doit accompagner ces différentes sociétés dans leur changement. Et on se voit aujourd'hui comme partenaire de développement. Nous sommes vraiment à l'écoute et nous développons ce qu'il faut pour le tissu économique.
Alors une bonne gestion d'entreprise permet par exemple, avec ces nouvelles machines, de réconcilier travail à la chaîne et produits fabriqués sur mesure, c'est juste?
Oui, c'est ça, c'est dans cette optique-là, mais comme dit tout à l'heure, je crois qu'il y a un long cheminement jusqu'on arrive à quelque part à arriver à cette... On disait hier soir, on a divisé le temps de production par 10, où avant, pour une machine standard, on prenait 2 mois entre la commande et la livraison, aujourd'hui on prend 1 semaine. Oui, c'est juste, on a mis tout ça en place, mais attention à garder à quelque part tous les employés derrière et qu'on puisse tirer tous à la même corde.
Vous êtes en train de nous dire que toutes ces transformations accélèrent sensiblement, évidemment, le rythme de travail, de production. Il faut donc des logiciels comme celui que vous proposez pour suivre la cadence. Mais attention, il y a des risques collatéraux pour les employés, aussi peut-être pour les clients de l'entreprise. Vous devez mettre du bon ordre dans tout ça et une forme de sérénité. Comment vous y prenez?
Alors, c'est vrai que dans les projets informatiques, il faut mettre des garde-fous. Donc il y a la fameuse pyramide entre la qualité du projet, les délais et le coût. Et je pense que c'est très important. Et un projet de déploiement d'un logiciel, une solution de gestion, prend du temps. C'est un investissement qui est très grand pour une entreprise. Et nous avons les spécialistes ou les personnes qui sont compétentes en la matière.
Et est-ce que vous pensez que les entreprises sont suffisamment soutenues pour accomplir ce changement ?
Mais je pense que quelque part, avec tout ce qui se fait, ou tous les débats comme hier soir qu'on a pu mener autour de cette entreprise du futur, permettent aux entreprises de se situer dans toute cette mouvance-là et de prendre avec précaution le chemin avec cette entreprise du futur.
Alors, parlons, essayons pour conclure de parler vraiment très concrètement. Qu'est-ce qu'avec votre logiciel ou un logiciel similaire, une entreprise du futur fait qu'une entreprise traditionnelle ne fait pas?
Donc, comme on a dit, on améliore les flux de production, on améliore la communication, on veut pouvoir échanger donc sous forme de plateforme avec l'extérieur. On veut que l'information sous forme de portail puisse échanger entre les clients, les fournisseurs, l'entreprise. On veut faciliter, on est des facilitateurs quelque part.
On rend finalement la vie de l'entreprise dans tous ses aspects beaucoup plus transparente.
C'est effectivement ça. Et attention, par rapport à la transparence, il y a une partie légale qui va arriver par rapport à une norme RGDP ou GDPR, qui est ce qui est la confidentialité des données. Donc on doit vraiment faire attention à tout cet aspect-là.
Et vous l'avez mentionné aussi, changer un peu la culture des entreprises dans la région pour qu'elles apprennent aussi à travailler ensemble. Merci beaucoup pour cet éclairage. On en termine avec vous, Patrick Linder, le mot de la fin. Votre synthèse de ce qui a été dit, qu'est-ce que vous retenez ?
Mais je pense que les évolutions qui sont perceptibles désormais dans le tissu industriel de l'arc jurassien renvoient à des changements de paradigme dans la conceptualisation de ce qu'est une entreprise, dans la conceptualisation de ce qu'est un poste de travail. Ils ouvrent un chemin de réflexion vers peut-être même un affranchissement de certaines tâches qui sont aujourd'hui pénibles. Ça pose des questions sociétales, des questions en termes de formation. C'est donc toute une série de défis passionnants qui nous attendent, mais c'est une marche qui est inéluctable. Aujourd'hui, on est beaucoup plus productif que ce qu'on était il y a 100 ans et on vit mieux. Et il ne faut jamais l'oublier.
Patrick Linder, hier, on a entendu des mots plutôt... on a entendu des mots très, très louangeurs vis-à-vis de cette région. C'est là que ça se passe. C'est dit par le secrétaire d'État à la formation, Mauro Dell'Ambrogio, par Johann Schneiderman, qui n'était pas là, mais qui le dit quand même, par Martin Wetterli, le président de l'EPFL. C'est ici que se situe vraiment le cœur de la microtechnique en Suisse, voire dans le monde. Est-ce que ces paroles, ces belles paroles, sont suivies d'effets ? Est-ce que vous sentez ce tissu économique régional suffisamment soutenu ? Surtout que maintenant, la crise de l'euro est plutôt derrière.
Bon, je dirais que le tissu industriel précède les paroles. C'est un constat et on est content que des autorités externes à la région le fassent. Maintenant, il y a quand même un manque peut-être de reconnaissance au plan national, notamment au plan des besoins particuliers. Cette structure industrielle a une spécificité, c'est qu'elle est composée de PME, c'est des petites entreprises, c'est pas des grands groupes, elles sont actives à l'échelle nationale, mais elles exportent aussi beaucoup. Et puis, se montrer innovant, ça coûte de l'argent. Quand les marges descendent, quand les carnets de commandes se vident, c'est extrêmement difficile de maintenir le niveau de financement nécessaire pour l'innovation. Aujourd'hui, au plan national, il n'y a pas de reconnaissance politique de la nécessité de soutenir une forme d'innovation propre à l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qu'on devra corriger à l'avenir. Il y a des outils à disposition, ils pourront être adaptés, il y a des débats qui vont devoir être menés parce que c'est ce qui fonde la compétitivité suisse et ça engage notre succès économique à long terme.
Patrick Linder, on sait que vous êtes actif au niveau du lobbying politique, notamment pour obtenir ces fonds, ces soutiens. On le rappelle, vous êtes directeur de la Chambre d'économie publique du Jura bernois. Avec nous également ce soir, il y avait Claude Genrat, professeur en conception des moyens de production à la HEARC, Cédric Bassin, directeur des écoles techniques du Locle et de la Chaux-de-Fonds, et Cédric Racine, CEO de Solvaxis. Merci à vous, messieurs, d'avoir apporté votre éclairage sur cette révolution 4.0 qui touche notre industrie.
Place publique.